Chapitre 47. 18 août 1994. Nina ouvre les yeux. Emmanuel, allongé contre elle, la regarde et lui sourit. Tu parles en dormant? J'ai appelé mon grand-père? Non. J'ai rêvé qu'il était mort, et il est mort. Je suis désolée. Elle se tourne sur le côté et ramène ses genoux contre sa poitrine, en position fœtale. Je suis toute seule maintenant. Je suis là. Nina le dévisage. Se moque-t-il d'elle? Profite-t-il de la situation? Pourquoi un homme comme lui s'occuperait-il d'une gamine comme elle? Ils se connaissent à peine. Elle rassemble ses pensées, dresse la liste des choses à faire en priorité. Il faut que je déménage, que je vide ma chambre avant de partir à Paris. Pourquoi? Parce que la maison n'est pas à nous. Papy l'a louée à la ville. Je vais te l'acheter. À quoi sert d'avoir de l'argent si ce n'est pas pour aider ceux qu'on aime? Mais elle n'est peut-être pas à vendre. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils diraient? Mon amour, j'ai 28 ans. Tu viens de m'appeler mon amour? Oui. Parce que tu es mon amour, le grand amour de ma vie. Jamais je n'ai aimé comme je t'aime, Nina. Elle l'enlace. C'est la première fois qu'on lui fait une telle déclaration. Comme dans les chansons qui font rêver, lorsqu'elle a entendu « Un homme heureux » de William Scheller. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Elle a pleuré. Avec Adrien, on a une théorie. On pense que quand la vie nous prend quelque chose, elle nous donne autre chose en retour. C'est pour moi que tu dis ça? Oui. Emmanuel l'embrasse, la caresse, pose des baisers sur son corps comme s'il s'agissait d'une pierre précieuse, cherche le plaisir de Nina, le trouve, elle tremble. Elle pense. Je ne suis plus seule, quelqu'un m'aime, plus personne ne m'abandonnera. Il m'aime. Adrien sort promener Paola, puisque Nina n'est pas rentrée de la nuit. En faisant le tour du quartier, la vieille chienne semble trimballer autant de tristesse que lui. Ils ont du mal à avancer, la tête basse, regardant l'asphalte, sans comprendre ce qui leur arrive. « Où est Nina ?» se demande Adrien. « Si elle avait été là ?» En se levant, il a téléphoné à Marie-Laure. Non, elle ne l'avait pas vue. Elle lui a suggéré d'appeler Emmanuel Damam, mais il n'en a pas envie. Il y a quelque chose chez cet homme qui le révulse. Il ne saurait dire quoi, si ce n'est qu'il est jaloux de lui. Il a du mal à supporter que Nina soit avec un beau type, grand, intelligent, riche, irrésistible. Leur jeunesse qu'il prenait pour une force est bousculée, ébranlée. Il se rassure en se disant que dans 15 jours, ce sera terminé. Adrien emmènera Nina loin d'ici. À cette pensée, il relève la tête, marche plus vite. Et puis, comme un boomerang, la colère revient. Pourquoi Pierre Beau est-il mort? Ils étaient si bien avant, tous les trois. Il l'ignorait, rêvait d'un avenir à Paris, sans savoir qu'à la Comelle, en dehors de l'année Pi, c'était le paradis, le socle, l'appui dont ils avaient besoin pour prendre leur envol. Le lieu d'une enfance douce et protégée, un berceau éloigné du malheur. Tenant la laisse de Paola d'une main, Adrien essuie une larme de l'autre. Étienne à gauche, Nina au milieu, moi à droite. L'horizon qui leur paraissait si clair lorsqu'ils ont fêté leur bac en juillet dernier s'obscurcit. Il est 8 heures du matin en été. Pourtant, il semble à Adrien qu'il est minuit au cœur de l'hiver. Il ramène Paola, la nourrit, elle et les chats. Remplit les gamelles d'eau fraîche, parce qu'Étienne n'y pensera pas. Étienne. Adrien monte à l'étage, pousse la porte, le regarde endormi dans le lit de Nina, comme pour s'assurer qu'il n'a pas rêvé. Il est allongé sur le ventre, un oreiller sur la tête. Adrien pense à Louise, réprime une envie de dégueuler, là, dans la maison du mort et de l'absente. Il saute sur son vélo et pédale vite, très vite, à perdre haleine. Quand il arrive à la station-service, Il est à bout de souffle. Il ouvre sa guitoune, met les pompes de gasoil et de super en route. Une Renault Clio rouge se gare. Le plein, s'il vous plaît, jeune homme. Nina sort de la salle de bain. Elle vient de croiser son visage dans le miroir, défiguré par le chagrin. Elle veut reprendre son travail chez Damam sans attendre. Elle dit à Emmanuel que rentrer chez elle, passer des journées entières dans une maison vide, lui paraît impossible. Il répond « Je comprends ». Il veut l'emmener, mais elle refuse qu'on les voie tous les deux. La fille de l'été et le fils du patron ne peuvent pas arriver dans la même voiture. Après, les autres, elles vont me regarder, je sais pas. Déjà que je suis orpheline. Emmanuel lui dit qu'il n'a pas du tout l'intention de la cacher. Je veux que tout le monde sache que nous sommes ensemble. Et c'est sur le chemin, entre la propriété des transports d'Amam, dans l'Alpine A610 rouge cabriolet, qu'Emmanuel prononce ces mots. « Tu es si jeune, Nina. Je pense qu'il faut que tu récupères. Partir à Paris dans 15 jours, ce serait de la folie. Laisse passer une année scolaire et rejoins Étienne et Adrien à la rentrée d'après. Ce serait tellement plus simple, se dit immédiatement Nina. La solution, c'est peut-être ça. Récupérer avant de partir. Pour l'instant, elle est déphasée, comme dans un bad trip. Elle a déjà vu des potes du lycée péter les plombs après avoir gobé un acide. Sa tête, ses muscles douloureux, son mal-être, son chagrin, ses ressassements lui laissent à penser qu'elle est dans le même état qu'un type qui rentre d'une rave party à 8h du matin. Et puis, pendant ce temps-là, tu continueras à travailler chez nous. Pendant un an, tu peux te constituer un capital qui va te permettre d'être libre à Paris. Et moi, je te garde encore un peu, ajoute Emmanuel. Il baisse le son de la radio. Une chanson d'été, pense Nina. Ailleurs qu'ici, c'est l'été. Des gens sont à la plage. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Combien de fois Nina, Étienne et Adrien ont dansé et chanté sur ces paroles en riant comme des baleines. C'est Joséphine qui emploie cette expression, rire comme une baleine. Depuis que son grand-père est mort, toutes les baleines du monde ont dû cesser de rire. Repenser aux garçons, c'est comme convoquer des souvenirs d'enfance quand on est adulte. La légèreté et la joie lui paraissent lointaines. Il y a encore un mois, je faisais la danse du tapis au club 4. Tu pourras me déposer chez moi à midi. Il faut que j'aille voir si tout va bien pour mes animaux. Évidemment. Merci. Il caresse son genou. Ses mains sont grandes et belles. Nina saisit ses doigts et les embrasse en fermant les yeux. Je ne suis plus seule. Quelqu'un m'aime. Plus personne ne m'abandonnera. Il m'aime. Il faut aussi que tu remeubles ta maison puisque ta mère a tout pris. On ira les acheter ensemble. « Ma mère, » pense Nina, « cette chose qui a fumé une cigarette à côté de moi. Trop de souffrance tue la souffrance. » Nina remonte le son de la radio et chante tristement. « Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. » C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Au même moment, Adrien aperçoit l'Alpine rouge passer à vive allure. C'est comme une scène de cinéma en accéléré. Adrien devine les cheveux au vent de Nina, son profil, sa nuque. Elle est donc avec lui. Elle l'a trahi. Elle lui préfère le dandy. Dans sa guitoune, déjà qu'il broyait du noir en repensant à la nuit dernière, il se foutrait bien dans l'air. Qu'est-ce que ça fait de boire de l'essence? On a déjà vu quelqu'un se suicider en faisant le plein? Et le comble, c'est qu'il doit déjeuner avec son père. Ce dernier veut parler de son installation à Paris.
« Il faut qu'on gère »,
lui a-t-il dit au téléphone. Sylvain Bobin ne sait faire que cela, gérer. Ce n'est pas un père, mais un administrateur. Adrien n'a pas eu le courage de lui répondre. « Non, je vais gérer tout seul. » Ils ont rendez-vous au restaurant de l'hôtel des voyageurs, un endroit un peu chic. D'habitude, il se retrouve à la pizzeria du port, située juste à côté de la passerelle, baptisée ainsi par le patron, un nostalgique de la Méditerranée, bien qu'il n'y ait jamais eu de bateau à la Comelle, à part quelques barques. Ce sera sûrement la dernière fois que Sylvain Bobin mettra les pieds à la Comelle. C'est peut-être pour fêter son soulagement, la fin de ses obligations, qu'il a décidé de changer d'établissement. Le restaurant des voyageurs ? Ben dis donc, ton père fait les choses en grande pompe ? A ironisé Joséphine. Il est 14h. Marie-Laure pénètre dans le jardin de Pierre et Nina Beau. Tout est sec. Les fleurs et les légumes crèvent déjà de soif, alors qu'on a enterré Pierre qu'hier. C'est fou comme tout ce qu'un homme laisse derrière lui est fragile. Combien de mois faudra-t-il aux pluies pour éparpiller le gravier, aux fissures des murs pour s'agrandir, aux mauvaises herbes pour tout dévorer, à l'humidité pour noircir les joints, au vent pour maltraiter les tuiles. Marie-Laure observe la mine défaite des pieds de tomates sur leur tuteur. Normalement, elle s'y attellerait tout de suite. Normalement, elle aurait déjà l'arrosoir à la main. Mais il y a plus urgent. Elle appelle plusieurs fois Étienne, qui ne répond pas. Elle entre dans la maison, redécouvre les pièces vides. Mais qui a bien pu faire cela ? Marie-Laure monte dans la chambre de Nina, trouve son fils endormi. Au pied du lit, la chienne ouvre un œil et le referme aussitôt. Marie-Laure semble contrariée de le découvrir seul. Elle pose une main sur son épaule nue, se rappelle le jour de sa naissance. Sa peau est la même, une douceur particulière, un tissu satiné. Elle aime encore le respirer, comme lorsqu'il était enfant. Elle n'ose plus le faire maintenant qu'il est presque un homme, mettre son nez dans son cou et le renifler bruyamment. Alors il lui arrive de respirer ses t-shirts dans la corbeille de linge sale. Étienne ouvre les yeux en grognant. Clotilde a disparu, lui dit sa mère. Ses parents sont inquiets, ils la cherchent partout. Ils m'ont dit que vous étiez ensemble hier soir.